Poubelle la vie en Royan-Vercors, le podcast qui démêle le vrai du faux sur nos déchets,
qui détricote les idées reçues.
Toute la vérité sur nos déchets.
Le compost.
Le tri.
Le recyclage.
Le réemploi.
La seconde main.
Ça pue.
Ça sert à rien.
Ça coûte cher.
C'est sale.
Berk.
Un podcast réalisé par Radio Royan-Vercors en partenariat avec la communauté de communes Royan-Vercors. Idée reçue numéro 5. Je ne trie pas, c'est déjà bien assez cher.
Oui, je trouve que c'est horriblement cher parce que je suis toute seule. C'est vrai qu'une famille qui a 6 enfants ont des déchets 10 fois plus que moi et paye la même chose que moi. C'est pas juste. Faut payer, hein. Sinon, quand on a une petite retraite, c'est dur.
Les gens le prennent comme ça parce qu'on paye pas mal en poubelle, en déchets. Les gens, ils comprennent pas quoi, qu'on trie et qu'on paye encore plus de poubelles. Quoi. Donc, c'est ça le problème. C'est là qu'on devrait expliquer les choses aux gens. Pourquoi ça coûte cher. Après, derrière, moi, je sais très bien qu'il y a du travail derrière. Donc, il faut rémunérer les gens. Et bon, ça, tous les gens ne le comprennent pas. Quand c'est cher, ça choque toujours un peu, mais ça, c'est compréhensible. Notamment à l'heure actuelle, qu'est-ce qui n'est pas cher.
Oui. Oui, et en même temps, non. Parce qu'on a tellement de déchets et ça devient tellement n'importe quoi que... Enfin, moi, personnellement, même si je trouve ça un peu cher, ça me gêne pas de payer pour ça. Quoi. Si le travail est bien fait, c'est toujours pareil. Après, il faudrait pas que ça fasse comme le reste et que ça augmente à vitesse exponentielle sans qu'il y ait d'amélioration, quoi, en fait.
Ouais, alors ça, je sais pas, j'ai pas trop d'avis dessus. J'imagine que justement, quand ça va dans les centres de tri, il faut des personnes qui trient, il faut des personnes qui retrient derrière nous, que voilà, c'est retransformé, etc. Il y a les personnes qui ramassent, qui font le ramassage également, qu'il faut payer. Il y a l'essence bah, du camion, etc. J'imagine qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Après, c'est vrai que c'est un petit peu flou quand même, quoi. On n'a pas forcément un détail de exactement... C'est pas annoncé, quoi, on va dire. C'est juste, bah voilà, c'est pour le ramassage des poubelles ou pour le tri, et puis voilà.
Bonjour à toutes et à tous. On parle aujourd'hui du tri des déchets en compagnie de Laurine Vignon, qui est technicienne collecte et valorisation des déchets à la communauté de communes Royan-Vercors, la CCRV. Bonjour Laurine.
Bonjour Anouchka.
En compagnie de Laurine, on va s'intéresser à une idée reçue. Je ne trie pas, c'est déjà bien assez cher comme ça. Est-ce que Laurine, c'est un argument, une idée qui revient souvent dans le cadre de ton travail ?
Oui, on l'entend beaucoup. Alors c'est surtout des retours qu'on a des mairies du territoire, voilà, que les gens peuvent facilement dire par rapport au tri. Je ne trie pas, je paye déjà bien assez cher.
C'est un service et du coup je paye pour ce service, finalement ça ne sert à rien de trier. Alors si on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui va coûter cher justement dans ce tri des déchets? Qu'est-ce qu'on va payer en tant qu'habitant ou habitante du territoire?
Alors déjà, effectivement, cette idée reçue, elle est liée quand même à une mauvaise compréhension de la gestion du service déchets et du budget. Donc en fait, le budget déchets, c'est environ 2 millions d'euros par an. Alors ça comprend plusieurs choses, hein. Ça comprend tout ce qui est contenant. Voilà, les bacs dans lesquels on dépose les déchets. Tout ce qui est collecte, ensuite, de ces déchets. Transport, donc transport jusqu'au centre de traitement, aux différents centres de traitement. Et puis enfin, le traitement. Alors, la collecte, il faut savoir qu'on intervient en fait sur les 18 communes du territoire. Hein, donc, ça correspond à peu près à 10 000 habitants. Voilà, donc sur ce budget de 2 millions d'euros, il y a donc ces différentes étapes que je viens de citer. Et puis, il faut rajouter aussi le fonctionnement des deux déchetteries, hein, celle de Saint-Laurent-en-Royans et puis celle de La Chapelle en Vercors. Le coût du personnel est intégré dans ces différentes étapes et majoritairement, à 90% du coût, provient de la collecte et transport et puis du traitement. On a environ 43% du budget lié à collecte et transport et puis à peu près l'équivalent pour le traitement. Voilà, donc c'est assez un budget, 2 millions d'euros. Il faut avoir en tête que c'est un budget annexe de la communauté de communes, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie du budget principal. Le budget déchets, c'est donc un budget annexe qui doit obligatoirement s'équilibrer. Il n'est donc pas possible de faire du bénéfice et à la fois, il n'est pas possible que ce budget soit déficitaire. C'est un budget qui doit être à l'équilibre. Donc ça, c'est important de le savoir également.
Est-ce que c'est un budget qui est intégralement pris en charge par la communauté de communes ?
Oui, intégralement. Voilà, tu demandais ce qui coûtait le plus cher. Donc là, j'ai parlé en étape technique, mais on peut rapidement parler aussi des flux, en fait, de déchets. Si on se base sur les données 2024, il faut savoir que voilà, le coût du sac noir, hein, de la poubelle noire, en 2024, il était de 385 euros hors taxe. L'hors taxe qui nous permet de se comparer aux autres collectivités. C'est pour ça qu'on utilise toujours l'hors taxe. Donc voilà, on est à 385 euros hors taxe la tonne pour la poubelle grise. Poubelle noire, poubelle grise, voilà. Ensuite, si on parle des autres types de déchets, sur les emballages et papiers, on est à 380 euros hors taxe la tonne. Et sur le verre, on est à 70 euros hors taxe la tonne. Donc on voit très nettement que le flux le plus cher, c'est vraiment la poubelle noire. Voilà. Et donc, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le budget. C'est-à-dire que sur un budget de 2 millions d'euros, on a 20% environ du budget qui est couvert par des recettes. Les recettes, en fait, elles sont de deux types. Hein. C'est la revente des matériaux triés, donc les emballages et papier et le verre, ça c'est les matériaux triés, mais aussi la revente de la ferraille et des batteries collectées en déchetterie. Donc ça, c'est nos principales recettes. Et à ces reventes de matériaux, on a aussi une deuxième recette qui s'ajoute, c'est ce qu'on appelle le soutien financier des éco-organismes. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, ces soutiens, ils reposent sur un principe qui est le principe des REP. Les REP, alors c'est un peu compliqué, je vais essayer de l'expliquer tranquillement. C'est en fait la responsabilité élargie des producteurs. C'est l'idée de faire reposer aux metteurs sur le marché le coût du traitement de la fin de vie, en fait, de leurs produits. Voilà, l'idée, c'est de faire reposer le coût aux metteurs sur le marché plutôt qu'à la collectivité. Donc, comment ça marche concrètement? L'habitant, quand il achète un produit qui est concerné par une filière REP, donc un emballage, par exemple, il paye une écotaxe sur ce produit. Cette écotaxe, ensuite, donc, elle va au metteur sur le marché et elle est en fait, comment dire, elle est reversée à un éco-organisme qui, lui, en fait, va donc, derrière, financer le traitement, en partie le traitement du déchet. Par exemple, pour un emballage, l'habitant, il va payer son écotaxe. Cette écotaxe, le metteur sur le marché va la reverser à l'éco-organisme qui s'appelle Citeo. Et ensuite, Citeo va lui-même reverser cet argent à la collectivité en charge de la collecte et du traitement. Donc, c'est des soutiens financiers qui sont reversés à la tonne. Donc, concrètement, je suis un habitant du territoire, je mets mon emballage en plastique dans la poubelle de tri, je vais déclencher une double recette. La recette liée à la vente du matériau à l'usine de recyclage, et puis la recette liée au soutien financier que Citeo va me reverser. En revanche, si cette même bouteille, je la mets dans le bac gris, dans mon sac noir, je ne déclenche aucune recette, ni la vente du matériau, ni le soutien de l'éco-organisme. J'ai tout perdu. Ça part avec les ordures ménagères résiduelles et ça va nous coûter 385 euros la tonne.
Donc finalement, on peut parler aussi d'un système vertueux, c'est-à-dire que plus on va trier ses déchets, et plus la facture finale va aussi baisser puisque le fait d'augmenter les recettes va faire mécaniquement diminuer
le coût
de la redevance.
Voilà, parce que quand on se rend compte que seulement 20% en 2024 du budget est couvert par des recettes, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les 80% restants doivent être apportés, financés par la redevance, donc par les habitants. Donc mécaniquement, plus les recettes augmentent via la revente des matériaux et les soutiens des éco-organismes, plus la pression sur la redevance diminue. Voilà, c'est mécanique. Hein, et l'inverse, hein. Moins on a de recettes, ben plus on augmente la redevance. Et depuis 2019, malheureusement, nos recettes ne cessent de diminuer et nos charges, elles, ne cessent d'augmenter. Donc la pression sur la redevance augmente.
Ce qui veut dire qu'en fait, le tri des déchets se fait de moins en moins bien ?
Eh bien, malheureusement, on a constaté cela, puisque une caractérisation de nos ordures ménagères résiduelles, donc de nos sacs noirs, a été faite en 2019 et montré qu'il y avait à peu près 30% d'emballages recyclables dans cette poubelle noire. Cette même caractérisation qui était refaite 3 ans plus tard, fin 2022, montrait qu'il y avait 42% d'emballages dans cette même poubelle noire. Donc, effectivement, il y a une dégradation du tri. Alors, pour autant, on constate qu'on progresse quand même malgré tout dans le tonnage des déchets collectés, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu plus d'emballages, d'une manière générale, de produits. Donc, on en a eu plus collectés dans la poubelle de tri, mais on en a aussi beaucoup plus dans la poubelle noire.
Alors, on parlait du système de responsabilité donc des producteurs. La question de la responsabilité, c'est aussi une idée qui revient donc assez souvent, puisqu'il y a donc un certain nombre de personnes qui ont l'impression de payer cher pour trier leurs déchets, et alors qu'ils se disent donc pas responsables finalement de la quantité d'emballage qu'il y a à traiter. Mais alors, qui serait responsable en fait ? Quel est le rôle de chaque acteur ?
Oui, alors effectivement, les responsabilités, elles sont partagées. Il y a la responsabilité du consommateur qui, lui, a dans tous les cas une obligation de tri. Voilà, il doit trier ses déchets. J'en profite pour rappeler que c'est pas une option, c'est pas une conviction personnelle, c'est la loi. Tout habitant a l'obligation de trier ses déchets. Voilà, donc ça c'est la part responsabilité de l'habitant. Ensuite, on a la responsabilité des collectivités. Les collectivités ont obligation de collecter et de traiter ces déchets. Voilà, les déchets des habitants. Ça c'est la part collectivité. Et puis il y a les responsabilités de l'État et de l'Europe qui, eux, vont publier des lois et des règlements qui vont cadrer à la fois les metteurs sur le marché avec des obligations qui vont leur être imposées sur la production d'emballages, sur la recyclabilité de ces emballages. Donc, je vais détailler un petit peu. Mais voilà, ces lois, elles sont faites à la fois pour les metteurs sur le marché et aussi au niveau des collectivités. Ces lois nous imposent également des objectifs de réduction des déchets, de collecte du tri, etc. Donc, ça, c'est les responsabilités de l'État et de l'Europe de cadrer tout ça. Et puis, donc, concernant spécifiquement les metteurs sur le marché, depuis 2020, on peut dire qu'il y a quand même un renforcement de leurs obligations avec des échéances quand même qui se précisent de plus en plus, à la fois concernant la production, la quantité d'emballage qu'ils produisent et aussi l'interdiction de certains plastiques. On a cette fameuse loi AGEC, hein, la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été parue en 2020, qui en gros impose beaucoup de choses pour les metteurs sur le marché, mais notamment la fin des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Alors ça se fait progressivement avec des étapes pour arriver à 100% d'emballage unique plastique supprimé en 2040. Cette loi, elle impose aussi une obligation en 2027 d'avoir sur le marché 10% d'emballages réemployables. Donc ça commence à se mettre en place, hein, notamment dans l'ouest de la France. On va dans des supermarchés où on va retrouver des emballages, en fait, voilà, des bouteilles, ou pas que des bouteilles d'ailleurs, des bocaux, etc., qu'on va pouvoir rapporter comme un système de consigne. Voilà, donc ça, c'est cette loi aussi qui a impulsé ça. Donc, ce n'est pas encore dans nos régions, mais ça va se mettre progressivement en place, même dans les supermarchés. Donc, c'est grâce à la loi AGEC. Voilà. Et puis, il y a aussi, j'en profite pour parler d'un nouveau règlement là, qui vient d'être publié, un règlement européen donc, qui s'impose aux États membres de l'Union européenne, qui va se mettre en place progressivement à partir du mois d'août 2026 et qui impose aux metteurs sur marché à une recyclabilité de tous leurs emballages. Donc, à terme, il ne pourra plus y avoir sur le marché des emballages non recyclables. Donc ces lois, elles interviennent sur deux aspects. À la fois la prévention, parce qu'elles imposent aussi clairement une diminution de mise en place d'emballages sur le marché, hein. Notamment une diminution de 15% d'emballages d'ici 2040. Bon, on va toujours dire que c'est pas assez, mais voilà, il faut juste avoir en tête qu'il y a quand même ça progresse quand même. Et puis donc voilà, il y a le volet diminution, mais il y a aussi tout ce qui est sur la recyclabilité des emballages restants. C'est une première grosse étape, on va dire, avec des sanctions qui sont aussi censées être mises en place pour les metteurs en marché qui ne respectent pas toutes ces obligations.
Et du côté des solutions, donc si on part toujours de cette idée reçue qu'on paye déjà bien assez cher pour le coût de traitement des emballages, eh bien, est-ce que finalement on ne pourrait pas aussi donner quelques conseils pour diminuer ce coût de traitement ? Comment est-ce qu'on peut réduire la facture ?
Alors, on a déjà une première chose à avoir en tête, c'est que le déchet moins cher, le moins cher est celui que l'on ne produit pas. Donc on va avoir tout le côté prévention, diminution de nos déchets d'une manière générale. Mais après, il faut aussi avoir en tête que, outre cet aspect réduction, il y a un geste qui est très important, c'est tout simplement de mettre le déchet au bon endroit. Une tonne de verre qui va être mise dans la colonne de tri verre va coûter 70 euros à la collectivité. Une tonne de verre qui va être balancée dans les bacs gris, en ordures ménagères résiduelles, va nous coûter 385 euros. Voilà, donc déjà, si on met le déchet au bon endroit, on va pouvoir faire des économies. Et on estime qu'en 2024, si voilà, on avait bien placé nos déchets à production de déchets équivalentes, hein, juste le mettre au bon endroit, on aurait fait près de 300 000 euros d'économies, donc 50 euros sur la redevance. Voilà, donc il y a le côté sobriété et il y a le côté aussi geste de l'habitant de bien mettre le déchet au bon endroit pour déclencher les soutiens des éco-organismes et déclencher les reventes aussi de matière.
Et puis dernière chose peut-être pour conclure, c'est que ce qui est un déchet pour nous ne l'est pas forcément pour tout le monde. On peut aussi...
Tout à fait. Donc on peut évoquer le réemploi d'une manière générale sur le territoire. Alors je ne vais peut-être pas trop développer les recycleries, etc. Les acteurs du réemploi, on en a déjà parlé. Par contre, on peut simplement aussi parler du recyclage. Hein, le recyclage qui permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières. Voilà, on recycle une matière qui va pouvoir être utilisée pour faire des nouveaux produits. Alors que sinon, on va extraire des matières brutes. Et on peut juste prendre par exemple l'exemple de l'aluminium. Pour produire de l'aluminium, on extrait de la bauxite dans des zones tropicales où souvent on va créer des déforestations massives pour pouvoir extraire cette matière qui est extraite dans des conditions vraiment terribles socialement parlant. Hein, c'est des conditions pour des travailleurs très misérables, ces conditions. Et puis, c'est un désastre aussi environnementalement parlant, c'est un désastre écologique. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on prend quand même conscience que malgré tout, le recyclage, c'est pas une fin en soi. Mais en tout cas, c'est essentiel pour éviter l'extraction de matières brutes.
Eh bien, merci beaucoup, Laurine. Je le rappelle, Laurine Vignon, qui est technicienne collecte et valorisation des déchets à la communauté de communes Royan-Vercors, la CCRV, et qui nous aidait aujourd'hui à détricoter cette idée reçue « Je ne trie pas », c'est déjà bien assez cher. Merci, Laurine.
Merci.
Les infos pratiques de la communauté de communes Royan-Vercors, le tri des déchets. Le centre de tri Métripolis se visite. La communauté de communes propose chaque année une visite grand public du centre de tri avec des parents en autocar depuis Saint-Jean-en-Royans. En 2026, cette visite devrait avoir lieu au mois de juin. N'hésitez pas à consulter la page Facebook Communauté de communes Royan-Vercors pour connaître la date précise. À noter que le CITRAD, le syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche, organise également chaque mois des visites du centre de tri. Les informations sur les dates et les horaires des visites sont disponibles sur leur site internet citrad.fr.
Poubelle la vie en Royan-Vercors, le podcast qui démêle le vrai du faux sur nos déchets,
qui détricote les idées reçues.
Toute la vérité sur nos déchets.
Le compost.
Le tri.
Le recyclage.
Le réemploi.
La seconde main.
Ça pue.
Ça sert à rien.
Ça coûte cher.
C'est sale.
Berk.
Un podcast réalisé par Radio Royan-Vercors en partenariat avec la communauté de communes Royan-Vercors.